Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième tranche du magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien. Gestion de la territoriale par les non-originaires, que dit la loi à ces sujets? Quelle est l'opportunité de cela? On en parle avec Maître Rufin Louko Moussoubao, chercheur, juriste et chercheur écrivain en droit. Nous avons aussi le professeur Saint-Augustin Mwendambale, qui est historien des mentalités. Il est déjà en ligne. Professeur, bonjour. Bien, on va les retrouver dans quelques instants. Vous avez des questions et préoccupations, appelez au 081 22 50 549, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Merci de votre fidélité à ce programme de la vie au quotidien et on se retrouve dans quelques instants.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Naebaka kosilika na yo na miso, kasi longola kanda. Na sina wa, lisefu inanga ina maboko na yo. Lobali loba moko yebiki sanga ye fani. Alete Alphonse Mabolo, sonima musique.
Image tikala na bongo na nga ye. Aka ya mushwali, osala kiko pepanga. Tango koma suwa, beta kilo seba.
Martin Kama
yeti kibo lingwa na bise komina lake.
Ah motema, makfe makenda zinge tile rakabaka.
Kaka yonde moto sangi sakabato.
Mereka
salana no bila bongo yeba. Kote yoleka ha mwano yo. Kombie bakota koma. Oh l'amour, mingi bateka mokili pona l'amour.
Maele Masaki, Jano Mopondo a.
Kaka yonde batia kibiso liloba ya Nzambe. Kaka yonde batia kibiso na papara. Bolingo bolingo e bote kuya ba problem. Oh l'amour, osalinga mabe, unyo kolinga yi. Na motema nanga nga na komi ndeko ya monyokoli mawana nga fani mawana nga yi mabone alamu ezala kaka kane tete deponi na koma ezala reni adela
Okapi.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons à présent parler de la gestion de la territoriale par les non-originaires, que dit la loi à ces sujets. En République démocratique du Congo, les entités territoriales décentralisées sont gérées par les ressortissants de ces entités. Pour bon nombre d'observateurs, l'élection des gouverneurs et la nomination des autorités locales originaires a montré ses limites parce qu'ils favorisent le clanisme, le tribalisme. La territoriale des non-originaires, pour certains, serait une thérapie et une nécessité pour lutter contre les velléités tribales, comme à l'époque du maréchal Mobutu. Par ailleurs, les gouverneurs devraient être nommés par le président de la République et non élus. Alors, quelle est l'opportunité de la gestion de la territoriale par les non-originaires et que dit la loi à ces sujets? Professeur Saint-Augustin Mwendambale, bonjour. Professeur Mwendambale, bonjour.
Bonjour, Jody.
Bienvenue dans
bonjour
ce...
également.
Bienvenue.
Bonjour également aux, disons, à nos auditeurs.
Bienvenue, okay. Professeur, dans cette émission. Alors, nous parlons de la gestion de la territoriale par les non-originaires. D'après vous, quelle est l'opportunité de cette, de recourir à la nécessité? Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de recourir à cette philosophie, comme c'était à l'époque du maréchal Mobutu?
Je crois que cette proposition serait la bienvenue. Pourquoi la bienvenue? Nous avons un vaste pays un vaste pays qui est composé d'une multitude d'ethnies, de tribus et de clans. Vous imaginez quand vous mettez les clans à compétition entre eux, je vous dis, ce n'est pas une démarche compétente. C'est chacun qui veut avoir sa part du gâteau dans la gestion du pays. Une tribu qui passe ne voudra pas que la seconde tribu qui rivalise avec puisse également prétendre avoir ne fût-ce une petite partie du gâteau. Nous avons expérimenté cela dans le passé. Regardez vous-même ce qui s'est passé à Kwamutu. Regardez ce qui s'est passé du côté de Katanga. Regardez ce qui se passe aujourd'hui du côté du Kivu. C'est lié d'abord à des divisions d'ordre ethniciste. Parce que les gens sont en compétition permanente. Prenons la ville de Bukavu, où vous avez un gouverneur chiite qui ne peut jamais accepter que la deuxième tribu la plus importante de la province puisse occuper les postes de gouverneur. C'est toujours chiite. D'où il y a l'exclusion de tout ce qui n'est pas chiite au sein de l'administration publique. Ça crée des frustrations terribles. Maintenant, il y a des tribus qui commencent à réclamer leur indépendance, c'est-à-dire l'autonomie, carrément, soit on transforme en république, soit on transforme dans une autre province, et cette série de velléités existe dans la plupart de nos provinces. Mmh. D'où également les conflits entre les gouverneurs et les présidents de l'Assemblée provinciale. Voilà, ce sont des petites histoires qui viennent montrer que quand vous êtes un échantillon de maillot tribalo-ethnique et que vous êtes au pouvoir, la tribu voisine ou la mieux prépondérante n'acceptera pas de voir accéder à ces postes. La loi de la majorité s'impose d'elle-même parce qu'on croit quand on est nombreux et tous les postes doivent nous revenir. Et l'idée de mettre un sujet qui vient de l'extérieur, je ne suis pas contre la congolité, hein, ça je vous l'ai dit bien. Mais moi, même l'ennemi, celui qui a battu mon père, s'il a la compétence de pouvoir diriger ce pays, j'accepterai qu'il vienne diriger ce pays, puisque ça sera pour le bonheur de ce pays. Voilà comment je m'inscris à faux par rapport à ce discours de congolité, par rapport à ce discours, il faut seulement les Congolais seuls qui peuvent servir le pays. Non. Et je crois que l'idée est géniale. Mmh. Il faut qu'on revienne à l'administration de la territoriale des non-originaires. Ça stabilise le pays. Vous voyez Conde Vila-Kikanda,
oui,
et Mukongo, qui est allé se faire élire à Goma. Vous ne voyez pas une fierté? La notion de l'unité est là. Il est Congolais. Il est né Congo. Il doit aider, participer au développement du Congo. Pourquoi est-ce que vous allez lui refuser ça parce qu'il n'est pas sorti de votre embryon ou de votre cordon ombilical? Non. Moi, je regarde la performance, la compétence. D'ailleurs, Aristote dit ceci dans son fameux livre philosophique de la Repubblica. Il dit ceci: seuls les meilleurs doivent servir l'État. Vous comprenez cette devise-là? Mmh. Que vous soyez de quel coin du pays, même du reste du monde, si vous possédez un savoir qui peut sauver le monde, qui peut sauver l'humanité, est-ce que vous prendrez seulement le savoir parce qu'il est de votre tribu, ou vous refuserez parce qu'il n'est pas de votre tribu? Vous regardez d'abord les intérêts, l'avantage de l'humanité, le développement avant tout. Voilà mon ambition, ma vision. Moi vraiment, je dis tu es là, je ne connais pas tes origines, tel que tu présentes via tes émissions, je peux dire les jours où l'Okapi ne sera pas là, j'ouvre une chaîne que Jody va diriger. Mais je ne vais pas regarder, il n'est pas de mon coin, c'est comme ça que nous tombons dans la médiocrité.
Oui, professeur, vous avez parlé de Conde de Vila-Kikanda qui était gouverneur au Nord Kivu. On a eu aussi Koya Gallo gouverneur dans l'ex-Katanga.
C'est la vérité. Voilà un peu les échantillons qui ont émergé et qui sont devenus aujourd'hui des monuments partout où ils sont passés, grâce à leur savoir, grâce à leur sens d'objectivité qui est débarrassé des problèmes d'ethnicisme, de tribalisme, ainsi de suite. Moi, je suis partisan de cette philosophie. si on peut revenir, c'est pour ça même le recrutement est très indispensable. Qu'on passe par les concours de recrutement partout, même au sein de l'administration, au sein des entreprises, qu'on revienne à cela. Comme ça, on va placer non pas selon la coloration de la peau, l'appartenance ethnique, mais selon la capacité intellectuelle, la compétence à pouvoir résoudre les problèmes qui se posent à un pays, à une région, à une entité administrative. Moi, je suis vraiment à 200% fanatique de cette idée. Mmh. Ça va nous diminuer des divisions, des guerres partout. Vous ne voyez pas que nous sommes un lambeau de guerres. Si vous voyez qu'il y a un problème au Katanga, sachez que le gouverneur qui est Mbemba n'est pas accepté par les Vanuatu. Non. Moi, j'aimerais vraiment que ça se fasse même sous forme d'une démocratie directe. Pourquoi pas ne pas élire aussi les gouverneurs comme ça se fait dans d'autres États du monde. Hein?
Mais certaines voix préfèrent que les gouverneurs soient nommés directement par les chefs de l'État parce qu'ils les représentent dans ces différentes provinces-là.
Moi, je suis partisan de la proposition parce que nous sommes tous des Congolais. Nous avons l'ADN qu'on appelle le Congo, Made in Congo. Tout le monde qui est appelé Congolais peut travailler partout ailleurs sur l'étendue des territoires nationaux, sans regarder d'abord ses appartenances tribalo-ethniques. Moi, je suis partisan de cette proposition de chef de l'État. Si on peut nommer, on nomme, mais on ne nomme pas nécessairement les originaires. Oui. On regarde les compétences. C'est encore le problème qui se pose dans le gouvernement. Quand le président va procéder par les choix des ministres, il va entrer, il va se perdre, il sera distrait dans les histoires des Cota, Sey, vous allez tomber sur des médiocrités.
Bien, on va accueillir. Professeur, on va accueillir les auditeurs Malonga de Bandounouville et Roger Marcel de Kinshasa. Nous parlons de la gestion de la territoriale par les non-originaires. Malonga, bonjour.
Aujourd'hui, bonjour à notre invité que j'apprécie vraiment les explications et à tous ceux qui nous suivent à ce moment-ci.
Quelle est votre question?
Ok, merci Jody. Vraiment. Moi, je félicite d'abord cette hypothèse. Mais la loi est déjà là. Le terme est nommé là, moi je vois que c'est lourd. Moi je peux proposer ceci. Comme la loi autorise que les gouverneurs doivent être élus dans leur province par l'ensemble provincial, je vois que les élections des gouverneurs d'abord doivent être effectuées. Si les gouverneurs sont déjà élus, chacun dans sa province, c'est par là où le président s'en charge de permettre ces gouverneurs élus-là. S'il leur permettait, il va le permettre. En tout cas, ça va concorder de cette idée géniale qu'avait Mobutu. Vous voyez l'état de Mobutu, raison pour laquelle moi, je resterai toujours confiant à ce monsieur-là, malgré il nous a laissé dans une situation que nous sommes victimes aujourd'hui, mais quand il est limité, c'est lui le promoteur de l'unité de notre pays. Et cela fait à ce que la République démocratique du Congo soit forcément unie. C'est une idée que ça ne peut pas rester seulement en parole. Lorsque le président et son gouvernement sera investi dans l'Assemblée provinciale, c'est ça la première chose que le président doit commencer à faire. Puisque ça, vous voyez que ce que nous vivons aujourd'hui, raison pour laquelle même l'administration publique est faillie aujourd'hui. Mmh. Puisque ce sont les originaires qui sont assis dans ces administrations-là. Ils font ce qu'ils veulent. Mais si ils permettent, ce n'est pas seulement pour les gouverneurs, même pour les chefs de division, même pour tous ceux qui gèrent les choses publiques, ils doivent être vraiment non originaires pour revenir encore à une bonne gérance des choses publiques. Si ce n'est pas comme ça, vous verrez toujours, en tout cas, les Mobondo et toutes sortes de conflits seront nés dans nos provinces.
Merci, Malonga.
C'est bon, donc, c'est très bon, voilà, et nous sommes très fiers de ça.
Voilà, Malonga.
C'est la première chose que le président doit commencer à faire.
Merci, Malonga, qui soutient la gestion de la territoriale par les non-originaires, parce que cela cimente l'unité nationale. On va accueillir Roger Marcel de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à notre invité, bonjour à tous les amis fidèles de la Radio de la Paix.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, merci beaucoup pour la thématique du jour et merci d'avoir accordé la parole. Monsieur Jody, je me rappelle quand le chef de l'État avait accordé un peu l'interview sur la RTNC quand Madame Tina Salam avait posé la question et demandé, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous prévoyez au niveau de nos provinces par rapport aux gouverneurs qui sont élus. Il avait dit qu'il n'avait pas quelque chose qu'il pouvait faire là, tellement que le peuple ou les députés pouvaient quand même changer un peu des choses, mais passer même, de faire des réformes ou bien de changer même notre constitution. Parce que nous regardons aujourd'hui dans nos provinces, donc les gouverneurs sont victimes. Si vous regardez même dans d'autres provinces, les choses n'évoluent pas. Regardez comme l'exemple avec le Kassai Central où à chaque fois on nomme toujours les gouverneurs. À chaque fois, lorsque les gouverneurs arrivent, ils n'arrivent pas à donner, toujours à faire même appliquer même son programme. Il y a aussi les gens, les députés qui viennent avec leur agenda. Moi, je trouve que si on pouvait quand même, que les députés quand même puissent insister à ça. Parce qu'on peut quand même parler de l'unité nationale. Si on parle de l'unité nationale, qu'il n'y a pas quand même quelque chose qui marche sur le terrain, je pense que ça sera vraiment un grand problème. Moi, je pourrais proposer toujours. On peut quand même voter le gouverneur dans chaque province. Quand on vote le gouverneur dans chaque province, les chefs de l'État pourraient être là pour leur permettre. Peut-être vous êtes du Katanga, on vous nomme peut-être l'Est, on prend la personne qui est du Katanga, on le nomme quand même.
D'accord. Quand donc vous rejoignez la proposition de Monsieur Malonga. Professeur, merci beaucoup. Oui. Professeur Mwendambale. Vous avez suivi les propositions. Les députés provinciaux peuvent élire les gouverneurs, mais le chef de l'État peut faire la permutation, envoyer celui-ci dans telle ou telle autre province pour cimenter l'unité. Quel est votre avis par rapport à toutes ces propositions?
C'est une proposition idoine. C'est-à-dire, à l'absence, on peut commencer par là comme première étape, à l'absence d'une élection directe, ouverte à tout le monde. Bon, on peut procéder par cela. Ils sont élus. Et puis, le gouverneur, le président de la République, il nomme le gouverneur et les permite. Ou bien ils sont élus. Et puis, le président de la République les permite dans d'autres provinces. C'est aussi une façon de diminuer ces freins-là qui bloquent le développement de notre pays. Parce qu'on passe la plupart de notre temps à des petites querelles entre les tribus. Dit, vous vous occupez du ministère des Finances, l'autre est de vrai, dit, non, telle considération tribale n'est pas reprise en compte, et donc il faut revoir. Mais on va s'éterniser dans des combats interminables parce que vous ne regardez que les appartenances culturelles et non pas la compétence professionnelle, la compétence intellectuelle. Moi, je crois que ça serait un début de solution, si on peut accepter, puisqu'il y a aussi les questions culturelles qui se posent, on peut rester les chefs de division, on les garde comme étant les originaires, mais sous le commandement d'un monsieur neutre, d'un monsieur qui peut apprécier en tant que juge, et pas quelqu'un qui est juge et parti, parce qu'il sera toujours mal interprété.
Et vous avez tout dit tout à l'heure, donné l'exemple des comtes des villes à Kikanda au Nord Kivu, qui étaient très, très, beaucoup aimés là-bas.
Aimés jusqu'à ce jour. L'enfant des comtes des villes à Kikanda, s'il s'est présenté dans la province du Nord Kivu, il sera élu. Moi, j'ai un garçon, une connaissance, qui a grandi à Goma. Il n'est pas du Nord Kivu, mais qui vient d'être élu député. Patrick Munyoma. Il vient d'être élu député à Goma, ce n'est pas sa province. Et c'est ça la fierté, la reconnaissance de la méritocratie des gens qui méritent de diriger ce pays. Mmh. Aussi longtemps que nous serons bloqués par ces quotas, c'est bien de penser aux quotas pour ne pas tellement désavantager les faibles ou le moins nantis, mais je crois qu'il faut quand même mettre une dose de la méritocratie dans tout ce que nous faisons. Or, à ce stade, suite à la pesanteur culturelle, nous sommes incapables de faire la dose, de respecter les normes de la démocratie. On dit, le meilleur gagne. Que le meilleur puisse servir l'État, parce que vous allez regarder, et c'est l'argument que la plupart des gens utilisent, quand ils sont en campagne, ils disent, « Wana zamutiawati, auti wati, un pousse-pousseur là, qui s'est porté candidat, qui ne connaît rien, qui n'a pas même un seul niveau intellectuel, niveau d'études, on va le préférer à des meilleurs qui sont là parce qu'ils ne sont pas de la contrée. Alors ça, nous privons vraiment le pays des bénéfices du développement.
Bien, on va accueillir Maître Omar Kigalo, qui nous appelle de Kinshasa. Maître, bonjour. Maître Omar, bonjour.
Bonjour, Monsieur Joly.
Bien, nous parlons de la gestion de la territoriale par les non-originaires, comme à l'époque du maréchal Mobutu. Que dit la loi à ces sujets?
Merci beaucoup, Monsieur Joly. L'idée est très bonne, confier la gestion de provinces aux non-originaires, parce que l'idée tend d'abord à renforcer l'unité nationale, à renforcer la cohésion, mais aussi à combattre les tribalismes. L'idée est excellente. Mais je pense qu'elle n'est pas opportune, elle n'est pas la bienvenue et elle énerve à nos dispositions légales. Premièrement, cette idée a comme inconvénient et risque d'impliquer ou d'induire la révision de la Constitution. Lorsqu'en 2006, on a décidé de la décentralisation, le but était de renforcer la gestion à partir de la base et d'assurer une autonomie forte au niveau des provinces. Voilà pourquoi on a dit désormais le gouverneur ne sera plus nommé. On n'est pas cédé aux caprices d'un président qui se comporte comme un roi, qui nomme qu'il veut, quand il veut, pour contrôler tout. On a voulu que les gouverneurs soient élus. Ça, c'est la première implication dangereuse. On risque encore de modifier la Constitution avec les contextes sociopolitiques actuels. Moi, je pense que c'est dangereux. Deuxième inconvénient, ça énerve même cette idée, ça torpille, ça heurte une loi cadre du 31 juillet 2008 portant libre administration des provinces. Cette loi-là exige et recommande l'élection des gouverneurs. Ce n'est pas par hasard. L'article premier de notre loi fondamentale dit nous sommes un état de droit. Et l'état de droit n'est pas une chanson interprétée par des militants mal éduqués, non, ni encore des djalolistes. C'est une philosophie, c'est un mode de gouvernance qui veut que ceux qui dirigent soient élus. C'est ça la démocratie, cher professeur, que nous avons tant voulu. Soit on l'applique, soit on revient aux méthodes ancestrales. Cette loi, monsieur le professeur, chers auditeurs, a fixé comme mode de désignation les élections. Pourquoi? Premièrement, pour renforcer la gestion à partir de la base. Des deux, pour garantir une réelle autonomie des provinces. Parce qu'à l'époque, avant 2006, les présidents pouvaient faire ce qu'ils veulent. Il n'y avait pas de centralisation, il y avait centralisation du pouvoir au niveau du sommet. Et ça a été ligne de code de notre sous-développement. Donc, demander à ce que les présidents nomment, c'est reculer 30 ans arrière, c'est violer cette loi qui a une prouesse et qui a l'avantage d'être là.
Bien,
autre
merci.
Chose, mais le présidentialisme, on risque de renforcer les pouvoirs du président qui mettra qui il veut à la place qu'il veut. Voilà pourquoi. Moi, je pense que l'idée, ce que nous déplorons est vrai. Il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup d'aventures, mais on ne peut pas produire une telle idée parce que non seulement elle n'est pas opportune, les deux, elle risque d'entamer une révision de la Constitution, elle risque encore de violer. Moi, à la place, je propose, parce que la loi de 31 juillet 2008 permet cela. Je propose qu'on maintienne l'élection des gouverneurs. Parce que nous sommes un État démocratique, on ne doit pas se leurrer. On doit subir les conséquences de la démocratie qu'on a choisie, qui veut que les dirigeants soient votés et non nommés, mais qu'on ouvre la porte à tout le monde, qu'on permette même aux non-originaires de postuler. Je suis d'accord avec l'idée. Deuxièmement, c'est un problème d'éducation civique et politique, monsieur Joly. Tout commence à la base. Voilà au niveau de nos partis politiques. Prenez un parti comme Idepes Tshisekedi. Après la mort du père, c'est les fils qui est là et personne n'ose démocratiquement critiquer. Un autre parti comme Idepes Kibasa. Après la mort du vieux, c'est les fils qu'il y a. Un autre parti comme les Palous. Après la mort d'Antoine Gizeng à son fils. Après la mort du fils, les partis meurent. C'est déjà ancré, c'est culturel. Le vrai combat n'est pas au niveau des élections des gouverneurs ou des nominations. C'est un problème comportemental, c'est vrai qu'on doit éduquer.
Merci beaucoup, maître.
Au niveau de nos partis politiques, on n'est pas démocrate.
D'accord.
Au niveau de nos familles, on n'est pas démocrate.
Merci, maître Omar. Merci beaucoup, maître Omar. Professeur Mwendambale, quelle est votre réaction?
Je salue l'intervention du maître Omar. Il a dit un certain nombre de vérités. Par souci de la cohésion nationale, il est vrai qu'il faut partir de la base. Et la base, c'est les sous-bassements culturels. Les gens qui connaissent les réalités du pays, les cultures de ce pays, pourraient mieux administrer le territoire, administrer nos entités. Mais il y a un problème qui se pose, monsieur Omar. Votre analyse procède d'un juridisme prudent, Mais je regrette une chose, quand les non-originaires, les originaires arrivent au pouvoir, vous ouvrez la brèche à un combat. Les autres tribus ne seront jamais contents que les originaires s'accaparent la majorité parce que c'est la grande tribu majoritaire. Chaque fois, 10 ans, c'est toujours le même clan
qui est au pouvoir.
Gouverneur.
Oui.
Non, à la longue, ça vexe, ça devient une dictature qui cache son nom. Ça devient une monarchie. Ça, il faut faire attention, puisque le peuple dont le dirigeant a été plébiscité traîne au pouvoir pendant 30 ans, 50 ans, provient toujours, c'est son coin qui sera le mieux développé, hein, qui est le coin des autres entités. Vous voyez déjà les conséquences de cela. À la longue, subissant la frustration, les autres peuples vont chercher à se rebeller, à chercher maintenant à créer leur province à eux. C'est l'exemple, par exemple, au sud Kivu, où vous avez le peuple Lega, qui occupe 3-4 grands territoires à côté des Babembe, mais pour accéder au pouvoir, c'est-à-dire au gouvernorat de la province, c'est tout un problème. Ils ne peuvent pas. Maintenant, il y a déjà commencé à venir des idées de créer une république, d'autres de créer une province, c'est parce que nous n'aurons jamais droit au chapitre. Donc le mieux serait qu'on crée également notre république, là aussi des natifs et de notre coin pourront accéder facilement au pouvoir. Vous voyez là où ça nous amène.
Oui.
La constitution n'est pas immuable.
Elle peut être révisée.
Elle peut être réajustée.
Oui.
Elle peut être réajustée, révisée.
D'accord.
Pour le bien de la population.
Merci, professeur.
Et moi, je ne vous cache pas. Et moi, je ne vous cache pas, si M. Omar il n'est pas de mon coin, l'origine de l'individu ne m'intéresse pas, mais si j'ai un ministre de la justice que je vais prendre dans ma province, avec les arguments que M. Omar vient d'avancer ici, je les prendrai chez moi.
Merci beaucoup, professeur Mwendambaye.
Un ministre
d'accord.
De la justice.
Merci, professeur. On n'a plus beaucoup de temps. Je rappelle que vous êtes historien de mentalité. Bonne journée et à la prochaine. On va accueillir Maître Rufin Louko Moussouba. Il est juriste et chercheur et écrivain en droit. Bonjour, maître.
Bonjour, Jody. Bonjour à tous nos auditeurs.
Bienvenue dans cette émission qui s'intéresse à la gestion de la territoriale par les non-originaires. Ouais. On va accueillir, il y a un auditeur en ligne. Maître Néhémie de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour, maître Rufin. C'est un plaisir de les retrouver encore dans ces débats ici.
Moi également, monsieur. Merci et meilleurs vœux.
Quelle est votre question, merci, maître Néhémie?
Alors, moi, je voudrais ici rappeler que l'histoire change et les choses ont évolué. Alors, je vais paraphraser ici Maître Omar, qui venait dire tout à l'heure que la gestion de province a été attribuée aux originaires, et premièrement pour renforcer l'unité, deuxièmement aussi pour, il a dit aussi pour renforcer la gestion.
Il a parlé de la libre administration des provinces.
Voilà, il a parlé de la libre administration, je voudrais peut-être y aller en d'autres termes, mais c'est quand même ça.
Oui.
Alors, il faut retenir ici que les choses ont changé. La constitution, que ce soit les textes légaux, les textes réglementaires, sont faits pour le peuple. Qu'il y ait nomination de gouverneur par les présidents de la République, qui permutation par les présidents de la République, qu'est-ce que le peuple gagne? Monsieur Lodi, on doit atteindre un niveau où on doit arrêter avec des théories, avec beaucoup de juridisme, beaucoup d'éloquence dans nos interventions, alors que le peuple est en train de gagner. Quand par exemple le maître Omar nous dit que c'était pour centrer ou pour mettre en exergue la libre administration des provinces. Mettez ces cas-là pour aujourd'hui, si lui pense à la maintenance ou au maintien de ces systèmes-là, du système actuel. Et quelle est la garantie que nous obtenons? Puisque si le président de la République aujourd'hui arrivait à nommer, ou arrivait, je ne sais pas moi, si aujourd'hui on doit rester sur notre, dans notre système ici, est-ce que n'êtes-vous pas au courant que pendant les élections, il y a un camp, de pas citer ici, était en train de travailler pour donner d'abord au sommet une majorité confortable au président de la République. Deux, même en province, ça s'est passé. Moi, j'ai travaillé dans des mouvements, dans des groupes de pression. J'ai assisté à ça. Par exemple, dans la province du Yolomami, dont je suis originaire, il y a eu ces cas-là, par exemple, aux élections de 2018. Il y a même un monsieur qui est venu de Calémie pour venir influencer les votes.
D'accord. Maître Némi, pour terminer, alors, vous soutenez, quel est votre avis alors, par rapport à ces thèmes?
Pour terminer, monsieur Jody,
oui.
Moi je veux m'appuyer sur la mentalité. Vous savez, même si le président de la République arrivait aujourd'hui à nommer, tous ces gens-là qu'il va nommer, rassurez-vous, sur base et sur fond des réalités des terrains politiques, il faut vous rassurer que ces gens vont rester ses débiteurs, même s'il va commencer à les permuter après élection par les assemblées provinciales, ils vont rester toujours débiteurs du président de la République, au motif que les intérêts du président de la République et non de la République. Les intérêts.
Merci beaucoup. Merci, maître Némi. D'accord.
Bon,
d'accord.
On a par rapport aux intérêts de la population.
D'accord.
Donc, On doit utiliser, s'il vous plaît, monsieur Jody, on doit utiliser la tête. C'est ça la gouvernance, c'est ça la bureaucratie.
Merci.
On doit arrêter avec une théorie.
D'accord, merci maître Némi de Lubumbashi. Gestion de la territoriale par les non-originaires. Que dit la loi? Maître Rufin Luko Musubao, encore une fois bonjour.
Bonjour.
Bien, alors, qu'est-ce que la loi dit? On a parlé de la loi de 2006 sur la décentralisation, la libre administration des provinces, etc. Mais aujourd'hui, on dit que c'est là, si ce sont les originaires qui gouvernent la province, ça crée beaucoup de problèmes de velléité tribale. Certains sont pour qu'on revienne à l'ancien système du maréchal Mobutu.
Voilà.
On a eu Conde Vida Kikanda, Akuya Diallo et les autres. Voilà. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ça?
Merci, Jody, pour cette émission. Encore une fois, vous avez choisi le bon thème. On a choisi sur cette antenne le bon thème pour contribuer à la solidification de l'unité nationale. Parce que, évidemment, nous venons d'où? Cette décentralisation vieille du maréchal, à l'époque, ça n'a pas abouti. Parce qu'il avait essayé tout simplement avec une seule province, c'était la province du Kivu, parce que ça avait commencé vers les années 85 au comité central. Il fallait contente, avec la pression de la communauté internationale, il fallait contente la décentralisation, c'est-à-dire le rapprochement du pouvoir central des décisions à la base. La décentralisation, donc, qui signifie tout simplement que non, les gouvernés peuvent décider désormais de leur développement à partir d'un centre de décision qui est proche d'eux. Et c'est ça, la décentralisation. Alors, Mobutu a commencé donc à 88-89. Et il a eu des difficultés à commencer chez lui, à l'Équateur. Et on lui a dit, vous n'avez jamais, les chefs coutumiers l'ont vu. Il a réussi, les chefs coutumiers à Kawele. Ils lui ont dit que vous n'avez rien fait ici et que vous ne pouvez pas commencer par découper la province que vous n'avez pas construite. Alors, je me rappelle les négociations qui se sont passées parce que j'ai travaillé là-dessus, en termes de recherche ici, les livres, histoire de Kivu. Et, c'est Sol Ekitima Bin Ramazani qui était le secrétaire permanent du bureau politique du MPR pour donner sa province de Kivu comme cobaye qui devait commencer. Alors nous devons donc évaluer, ça fait depuis 88, évaluer d'abord la province de Kivu. À cela, on a ajouté par Boshab, le ministre de l'Intérieur, et celui qui est devenu aujourd'hui le secrétaire du PPRD, le professeur Chadari. Ce sont les auteurs de cette décentralisation. Il faut maintenant évaluer parce que c'est venu dans le format de 26 provinces, c'est venu de, n'est-ce pas, de Sun City.
Okay.
Il faut donc évaluer. Ça fait déjà plus de 20 ans
de décentralisation.
Qu'est-ce que ça a donné? Alors, si rapidement, je peux dire à nos auditeurs, le constat est amer. La question d'abord, la décentralisation en termes de provinces, elle est incontestable. On ne peut plus revenir à la centralisation du pouvoir à Kinshasa. Mais maintenant, comment gérer la décentralisation? La décentralisation a été accompagnée donc par le découpage des provinces et le découpage de ces provinces par la gestion des mairies, des collectivités et consorts jusqu'en bas. Alors, la Constitution avait prévu que pour le fonctionnement de toutes ces entités décentralisées, il faut la rétrocession.
La rétrocession.
Chaque fois que les provinces reçoivent quelque chose, elles ne retournent pas aux mairies, aux communes, au territoire. C'est donc, nous étions dans ça. Vous vous rappelez à l'époque où j'étais commissaire régional de la province du Nord Kivu à Kinshasa. Donc, c'est une casse-tête. Qu'une entité décentralisée reçoit la rétrocession centrale pour en donner aux autres entités,
aux autres entités
sous sa tutelle. Donc ça veut dire la province donnée aux mairies, les mairies données aux communes ou territoires, etc., etc. Donc ça, c'est le premier échec de 20 ans de décentralisation.
Et on parlait même des recettes qui devaient venir à Kinshasa et Kinshasa
qui devait retourner. Ah, donc c'est cauchemar. Donc les recettes devaient venir de Kasumbalesa pour Kinshasa. Et Kinshasa renvoyé à Lubumbashi. Et donc, tout ça, ça n'a pas réussi. Parce que Kinshasa considérait que si on renvoie, si les provinces prenaient à la source, Kinshasa sera asphyxié parce que Kinshasa regorge les grandes isoles de la République.
Mmh. Alors c'est là ajouté... au mardi, si on recourt à la gestion de la territoriale par les non-originaires, ça va énerver la constitution actuelle.
Non, ça veut dire il y a une nécessité de... Non, j'y arrive. Il y a une nécessité de réviser la constitution. Je parle d'évaluation. Mmh. C'est que cela a donné jusqu'aujourd'hui. Au découpage territorial, on a ajouté des organes délibérants, ça veut dire l'Assemblée provinciale et les conseillers municipaux qui viennent d'être élus pour la première fois. Mmh. Ça veut dire des organes délibérants. Ces organes-là nous coûtent énormément, très cher. Les assemblées provinciales, pour la plupart des cas, dans toutes les 26 provinces, n'ont servi essentiellement qu'à la corruption, qu'établir des édits, c'est-à-dire les lois provinciales, qu'on appelle les édits, pour faire fonctionner. Et je parle de l'évaluation. Lorsque maintenant vous prenez la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu, qui sont en état de siège, vous constatez combien ces provinces-là viennent d'avancer dans beaucoup de choses. Je ne parle pas de la paix pour lequel l'état de siège avait été ordonné. Je parle du développement par des personnes qui sont non originaires. Donc ça veut dire s'il y a une nouveauté là, il y a une originalité que l'état de siège vient de révéler. Ça veut dire la contribution d'un gouverneur venu d'une autre province.
C'est donc important. Celui qui est au nord qui vous n'est pas de la province.
Mais pas de nom, en fait. Celui qui est actuellement, celui qui venait de l'Équateur et celui d'aujourd'hui vient du Sud Kivu. Donc le gouverneur Chirimwami vient du Sud Kivu.
Son prédécesseur venait de l'Équateur.
Oui. Celui de l'Ituri vient du Kasaï. Alors donc vous sentez donc qu'il y a une nécessité et la proposition que nous donnons, nous sommes en train de coucher ça par écrit pour que les institutions nationales, nous sommes en train d'étudier la question, donc nous, comme nous sommes habitués à la recherche, nous considérons que la révision de la constitution doit toucher cet aspect-là parce que les organes délibérants provinciaux ou provinciaux ne nous servent presque à rien. Il faut donc l'éventualité de la suppression des assemblées provinciales et la nomination lors de l'affectation. La question de nommer des gouverneurs doit être ainsi présentée. Ça veut dire, les gouverneurs sont élus, écoutez d'abord ma proposition, les gouverneurs sont élus, mais lors de leur affectation, ils sont élus. Celui du Bas-Congo est élu par l'organe du Bas-Congo, en attendant, n'est-ce
par
pas,
l'Assemblée provinciale
du Bas-Congo, celui de
Telongo central.
Mais lors de l'affectation, lors des affectations pour leur fonction, on prend celui du Bas-Congo, on l'affecte à Nisiro. Et celui de l'Isiro, on l'affecte Mbandaka, celui de Mbandaka on l'affecte à Kolwezi, etc., etc. C'est pour et que cela soit également vrai même pour les maires de ville.
Même parce pour les maires.
Mais parce que nous, vous vous rappelez, nous avions contesté sur ces antennes à l'époque où Boshab, le ministre de l'Intérieur, parce que je parle de Boshab, ministre de l'Intérieur, je parle de professeur, le secrétaire général du PPRD, je parle des comme ministre de l'Intérieur qui ont initié ce projet. Et qui l'ont fini, nous avions critiqué le fait que pour nous en Afrique, et en particulier au Congo, la décentralisation signifie retour de chacun chez lui. Et lorsque vous allez chez vous au Bas-Congo, c'est de Lukaya demande à ceux de Cataracte d'aller également chez vous. Ceux de Cataracte demandent d'aller
au groupe ici.
C'est la déflagration, déflagration de la République. Parce que pour nous, pour d'aucuns, la plupart, décentralisation signifie chacun chez lui. Or, la République, dans la nécessité de l'unité nationale, parce que autour de tout ça, c'est consolider l'unité nationale.
L'unité nationale.
Tous les pays à régime fédéraliste, à régime de décentralisation, ces régimes-là n'ont servi qu'à consolider la fédération principale, donc l'unité nationale. Les 52 États américains ont contribué à la consolidation de la fédération américaine. Les États RIS, dans leur configuration, des républiques socialistes à l'époque, n'ont aidé qu'à la puissance de la Russie. Donc, les 26 provinces doivent tous contribuer à l'unité nationale. C'est comme en France. Les préfets ne sont pas élus. Les maires sont élus, les préfets et sont nommés par le président de la République. Les préfets sont nommés. Donc, ça veut dire, ça ne sera pas une originalité. Les pays voisins ici chez nous, à Brazzaville, ils sont nommés. au Burundi, ils sont nommés, au Rwanda, ils sont nommés, en Ouganda, ils sont nommés. Ils ne parlent que des pays voisins.
Oui. Au donc, Kenya, pour vous, les gouverneurs devaient être nommés par le chef.
Ils sont élus par les organes provinciaux, oui. N'est-ce pas? Mais dans leur affectation.
Affectation, le président a la possibilité de les permuter.
Voilà.
Bien, on va accueillir Jérémy Mwamba de Lubumbashi. Bonjour. Jérémy, bonjour.
Je pense qu'en son temps, j'avais aussi évoqué le cas qu'il fallait peut-être que les gouverneurs passent aussi au suffrage universel direct comme les autres, parce que c'est pour leur donner du crédit, parce qu'il vous souviendra, si je vous donne ici un exemple du tableau vraiment très sombre comme ce qu'on a vécu dans les Kasaï, c'est pas oriental. Vous voyez, on a assisté à un jeu de changement des gouverneurs et qui n'a pas profité au peuple qui sont là-bas parce que le développement était à la traîne par rapport aux autres. Vous voyez, par exemple, ici à Lubumbashi, on a connu dans le Haut-Katanga les seuls gouverneurs qui a été là durant tous ces 5 ans. Il y a eu un développement harmonieux pour c'est ce qui a fait que lorsque les institutions sont stables, il y a lieu qu'on puisse parler de développement. Mais lorsque les gouverneurs sont élus par au niveau des assemblées provinciales, il se peut qu'il y a une conséquence qui en découle là en termes de régionalisme. Là, je pense au règlement des comptes, parce qu'il vous souviendra, vous voyez, même à Kinshasa, ce qui se passe, les jeux de ping-pong entre l'exécutif, tout comme l'exécutif provincial, c'est tout ça, ça ne profite pas au peuple congolais, bien au contraire, ça régresse. Alors il faut que réellement que les chefs de l'exécutif soient nommés par les chefs de l'État, ça pourra peut-être amener un plus, mais il faut de plus en plus qu'on puisse mettre des gouverneurs qui ne sont pas originaires du province du coin. Parce que lorsque vous avez un gouverneur du coin, il peut développer le tribalisme. Il peut développer tout ce qui peut gangréner et donc le développement, n'est-ce pas, de ce coin. Mmh. Et tout ça, ça ne peut jamais profiter à ce que notre pays puisse connaître un développement harmonieux. Mais je ne sais pas les constituants, les parlementaires. Qu'est-ce qui fait à ce que, à chaque moment, quand on soumet peut-être des situations pareilles, qu'ils revoient quand même les choses. Donc, c'est-à-dire en initiant certaines dispositions et donc certains projets.
Donc, ça veut dire que la Constitution.
À désengorger, n'est-ce pas, le développement de notre pays qui, du reste, semble toujours étouffé, surtout dans des provinces où on est assisté seulement à des querelles qui n'ont pas profité, n'est-ce pas,
ceux
qui sont dans ce coin-là et qui a presque régressé ce coin de 1000 kilomètres en arrière.
Merci, Jérémy.
Ce n'est pas correct.
Merci
dans
beaucoup.
Un pays. Nous voulons réellement qu'on puisse revenir, comme dans les cas, on a
appris. Merci beaucoup, Jérémy. On va donner la parole à Patti de Bandouville. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Jody Daniel Kachama.
Quelle est votre question, Patti?
D'accord. Bon, moi, j'ai trouvé que le président nomme les gouverneurs. Bon, je trouve que ça sera comme déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Ça sera quel type de gens que lui aussi, le président, va aussi nommer? Ça sera peut-être les gens de son obédience politique, il va prendre ses militants, même qu'ils soient même les non-originaires, mais ils feront quand même de son obédience. Regarde l'exemple des ministres des fois qui sont en train de nous nommer. Les ministres sont nommés par les présidents, mais regarde, ils ont leurs mathématiques qu'ils ont fait là, les quotas, les ceci, les cela, ils vous trouvent même un incompétent là, ils vous les placent, alors les choses ne marchent pas. Alors notre maître Omar de Kinshasa qui disait que non, on avait décentralisé pour rapprocher l'administration et puis voir comment l'argent va être géré dans des provinces. Mais je trouve que c'est faux. On avait dispatché les pays comme ça pour nous diviser de plus en plus. C'était pour nous diviser. Est-ce que là, aujourd'hui on peut dire que les provinces sont réellement autonomes? Non. Financièrement, tout part à Kinshasa, c'est Kinshasa qui bloque.
Merci, Patti. Merci beaucoup, Patti, pour cette intervention.
Merci beaucoup.
Maître Loupo,
merci
vous beaucoup, avez la
parole. Mais Patti, il touche quelque chose qui constitue la réalité de l'évaluation, n'est-ce pas, de l'état de siège. Donc, l'évaluation de la décentralisation de 2002, ça veut dire la décentralisation. Vous vous rappelez que lorsque...
C'est 2002 ou 2006, ça?
La décentralisation vient de Sun City,
okay.
Et ça a été concrétisé ici en 2000. C'était avant les élections. Vous vous rappelez, c'était pour, rappelez-vous de la crise, pour fragiliser les gouverneurs du Chaba, aujourd'hui Katanga, parce que qui était le gouverneur de l'un des plus grands morceaux de la République. Vous voyez donc, la décentralisation telle qu'elle a été précipitée répondait à cette nécessité politique. Maintenant, lorsqu'on évalue aujourd'hui, on constate que, évidemment, ils font qu'on réponde à cette question-là. Maintenant, à la question de savoir si, comme la décentralisation n'a pas donné tel qu'on l'a entendu, elle a fragilisé davantage le pays.
Le pays.
Regardez là où nous en sommes avec la menace de la balkanisation du pays. Donc, ça a commencé par une décentralisation. Et malheur à ceux qui ont été utilisés pour émietter notre pays. Regardez ce qui se passe à l'est du pays. Et la République a du mal à répondre. Vous voyez, la République a du mal à répondre pour mettre fin à la menace d'une manière directe. Et ça, parce que nous avons certaines personnes au front qui se considèrent comme si ils ne se battent pas pour leur pays. Donc le sentiment de la nationalité, s'il faut répéter ça, de la nationalité nationale, si vous me permettez la tautologie, a diminué dans la conception des gens. Nous qui sommes nés et grandis dans la Deuxième République, nous sommes restés avec ces souvenirs-là de l'unité nationale.
L'unité nationale, la cohésion.
Nous allions partout.
Et vous vous sentez congolais. Vous êtes
Zaïrois partout. Oui. On s'est mariés partout. On s'est rencontrés partout. On a étudié partout. Et à l'époque, dans les chambres des campus, on nous logeait dans une chambre à quatre. Et quatre régions d'origine. Donc vous ne pouviez pas vous retrouver dans une chambre. Parce que dans la chambre, il y avait des chambres, des lits en étage. Et on nous mettait à quatre. Et vous ne pouviez pas être d'une même.
Il n'y avait pas de question de tribalisme.
C'était le brassage.
Les couillas,
pas du tout. Et à l'époque, un seul mot d'ordre au campus, toute l'université suivait. Aujourd'hui, nous avons de la peine à unir les étudiants autour d'un mot d'ordre de défendre les pays, de défendre nos frontières, de défendre notre patrimoine. Les étudiants raisonnent à raison de leurs origines,
de leurs
provinces, de leurs partis politiques, pour la plupart des partis politiques tribaux. Et donc, il faut repenser le pays pour revenir. Alors, par exemple, lorsque j'ai proposé que après l'élection des gouverneurs dans les provinces, et affecté dans d'autres provinces, il faut qu'évidemment la révision de la constitution porte également que ces motions-là alimentaires, les motions alimentaires et économiques, puissent désormais les résultats être transmis au chef de l'État, dont le rapport de ces motions-là, transmis au chef de l'État qui les consomme. Parce que ça sera une façon de stabiliser ces gouverneurs-là qui sont...
Parce qu'il y a des gouverneurs qui n'ont pas travaillé. À tout moment, il y avait des motions.
J'ai cité la province de Sud-Kivu, la province de Kananga, la province de l'Équateur,
l'Ituri aussi a connu
également cette déstabilisation. Donc c'est ceux qui ont bâti les records pour motiver les chefs de l'État à ce qui est quelque chose d'autre. Et lorsqu'il parle de l'unité nationale de la Deuxième République, nous le soutenons parce que l'unité nationale passe au-dessus de la décentralisation. Je parle de l'unité nationale. Parce que notre pays est la victime de convoitises de toute la communauté internationale. Nous sommes le seul pays où les visiteurs entrent et ne veulent plus rentrer. Les visiteurs, dès que vous les autorisez d'entrer, ils oublient chez eux. Le seul pays qui fait ces choses-là, ou qui fait cet attrait-là, s'appelle la RDC. Toutes ces nationalités.
Alors dites-nous, à l'époque, Koyagialo, il avait bien géré ou pas?
Koyagialo était le gouverneur du Chaba.
Munkamba
Kadiata. Je peux citer, gouverneur du Chaba, l'un des meilleurs. En dehors du massacre de Sentinelle Lumbashi, qui attachait son mandat là-bas. Gouverneur Désiré Kondeville Akikanda, l'un des meilleurs de tout le temps, de la province de Nord-Kivu, parce qu'il a été le premier. Et qui a électrifier la ville, qui a mis des robinets publics, des dispensaires publics de l'État, dans la plupart des endroits qui n'en avaient pas. Il a mis les béton sur les tronçons principaux, notamment les tronçons que les enfants de Goma connaissent, Sinières jusqu'à Majengo. Donc, Goma n'oubliera jamais Désiré Ville Kikanda, en dépit du fait qu'il est déjà décédé, mais au moins, les non-originaires, et c'est là où on ne va pas oublier qu'évidemment, le moment où Julien Paluku a succédé à Serufuli, il a fait qu'aujourd'hui, la ville de Goma soit aujourd'hui l'une des grandes villes d'attrait et
de
la cible des convoitises de tous les pays voisins. Donc ça veut dire tout simplement que les exceptions, il y en a, mais dans l'évaluation globale de l'ensemble de la décentralisation, les non-originaires ont fait mieux, et à cela ajouter Kachama à Nitouri et Chirimwami va très vite en ce qui concerne ce qu'il fait, la construction des routes et consorts. Donc ça veut dire vraiment, revenons à cet héritage de l'unité nationale de Mobutu, c'est ce qui a
permis... Ça veut dire qu'il faut réviser la constitution.
Non, rien à faire. La constitution devra être révisée et adapter notre besoin, n'est-ce pas, aux contingences qui sont les nôtres, parce que la décentralisation vient de nous donner la preuve qu'elle a contribué, dans les formats qu'on lui a présenté là, a contribué à la fragilisation de notre pays. Et voilà, aujourd'hui, nous avons de la peine à répondre à cette menace de la balkanisation qui est passée notamment par la décentralisation.
Parce qu'il semble qu'avec la gestion des originaires, il y a aussi des querelles internes. Intestines. On dit non, celui-là est mouche, ce sont toujours les mouches qui sont les bâches.
Donc, c'est-à-dire, c'est ça les démons de la tribalisation et de l'ethnicisme. Donc, ce sont des démons sans frontières. Donc, ce sont des démons de déflagration.
Et ça bloque le développement.
Non, vous ne pouvez pas développer une contrée lorsque ceux qui sont de telles tribus, à l'air C, ils se réclament, c'est du nord, c'est du sud. Et parmi ceux du sud, ils se réclament, c'est de telle colline et telle autre. Donc c'est indéterminé à l'infini. Vous ne pouvez pas vous en sortir.
C'est ingérable.
C'est ingérable. Donc ça veut dire, ces démons-là, vous savez pourquoi la province de Sankuru a eu les problèmes interminables jusqu'aujourd'hui, le Sankuru. Parce
pourquoi?
Que parmi les problèmes, parmi les provinces le plus mal gérées depuis lors, c'était les Sankuru, les Bandundu et le Maniema. Et parmi les fléaux qui minaient ces
toujours par les originaires.
C'est le groupuscule de la déflagration qui va dans tous les sens. Les tétés là des savanes et les tétés là de la forêt.
Oui.
Donc, ça va dans tous les sens. Lorsque vous prenez cela, ils ne peuvent pas s'accorder. Alors, je sais que depuis qu'il y a le gouverneur Gilles Lodi qui est là-bas, qui est parti là-bas, venant de Kinshasa, la situation s'est calmée.
C'est tranquille.
Plus ou moins. Parce qu'il venait de Kinshasa. Il est de là, mais il n'était pas local.
S'il faut réviser la constitution, qui doit initier
C'est le président de la République.
C'est le président de la République.
Ou un député, ou membre du gouvernement.
Donc, gouvernement.
L'initiative de la révision peut provenir du Parlement, peut provenir du gouvernement, peut provenir du chef de l'État. Et il faut donc.
Oui.
Il faut donc pour consolider l'unité du pays, que la constitution soit révisée, parce que nous constatons aujourd'hui que la décision...